camino peregrino y váyate con Dios. Bon chemin fait le Rhin, Dieu te donne la main.
Bonjour, c'est toujours avec le même plaisir que le messager du cheval vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique dédiée à celui qui, dit-on, est la plus belle conquête de l'homme, Jean-Yves. C'est le chien, c'est le chat?
Ah, ben le cheval, bien sûr.
Ah bon, je pensais que c'était la puce. Une émission proposée par Michel Clément tous les mercredis et les samedis à 12h35 sur CFM Radio, la radio de proximité que vous êtes toujours plus nombreux à écouter. Et vous avez bien raison, avec aujourd'hui autour de la table Jean-Yves Bonnet.
Bonjour à tous.
Et le messager du cheval a également le plaisir d'accueillir aujourd'hui Fred Malavant. J'écorche pas votre nom.
Non, tout à fait, c'est ça. Bonjour.
Et Marjolaine Réfrégier.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous voudriez vous présenter en quelques secondes, Marjolaine?
Alors, je travaille donc sur les Vézous et je suis chargée de développer et de coordonner des actions culturelles sur ce territoire.
Action culturelle sur le territoire de l'Évézou, d'accord. Et voilà. Fred?
Ben moi, pour ma part, j'ai à charge le volet sportif. Donc, je suis éducateur sportif territorial sur l'ensemble du l'Évézou qui comporte 22 communes. Et j'interviens sur les différentes communes en question depuis 1999.
Voilà. Depuis 1999, ça fait quand même déjà
14 années.
Ouais. 14 années, voilà. Alors, tous les trois en selle pour une chevauchée radiophonique de 25 minutes?
Ah ben, tout à fait. On en descend et on va remonter tout à l'heure.
Voilà. Et vous-même, alors, Marjolaine, est-ce que tu es déjà monté sur un cheval? Tu vas me dire que tu es cavalière olympique.
Certainement pas, non. Il y a bien longtemps, effectivement. J'ai arrêté après une chute qui m'a laissé quelques traces psychologiques.
D'accord.
Enfant.
Et Fred?
Ben là, c'est dommage.
Mais je dois avouer que j'ai certaines grosses carences en matière d'équitation, même en étant éducateur sportif, à part un peu de poney quand j'étais bambé, mais sinon, aucune aventure
équestre. Sinon, pas plus. Non. Voilà. Et ça gratouille pas dans un sens quand on voit des cavaliers dans des spectacles, de se dire,
ça, on pourrait se laisser tenter, mais ouais, pourquoi pas une fois.
Ceci dit, on peut pas tout faire.
Hein. Non.
Voilà. Alors aujourd'hui, on va parler des Templiers. L'ordre des Templiers, mais sur le Larzac. Alors, nous sommes au début du XIIe siècle à Jérusalem, en 1120. À l'initiative duc de Payne, un chevalier originaire de Champagne et de quelques-uns de ses compagnons, une milice de chevaliers se crée. Une sorte de confrérie laïque qui met au service des chanoines du Saint-Sépulcre de Jérusalem et prend le nom de Pauvres Chevaliers du Christ et du Temple de Salomon. Alors, une milice rebaptisée quelques années plus tard Ordre du Temple, et tous nos auditeurs, évidemment, ont bien reconnu les fameux Templiers. Hein. Je crois que tu les aimes bien, Jean-Yves, les Templiers.
Ah oui, absolument. Oui, c'est eux qui ont créé pas mal de choses. Hein.
Voilà.
On dort beaucoup de choses aux Templiers. La cavalerie, par exemple.
Voilà. Alors, justement, c'est ce qu'on va voir. Alors, pratiquement, donc, ils s'installent sur le Larzac et essentiellement pour faire l'élevage de moutons. De moutons.
Oui, mais de chevaux aussi également.
Assez peu. Justement, Jean-Yves.
On est remonté à cette époque-là. Mmh. Ils élevaient des chevaux qui préparaient pour partir à Jérusalem. Des chevaux rustiques, des chevaux barbes, qui s'adaptaient très bien au pays et puis qui partaient pour Jérusalem.
Alors, pratiquement dès sa fondation, l'ordre du Temple, hein, les Templiers, jouit d'un grand prestige en Europe. Hein. Il se dote d'un immense patrimoine foncier grâce aux dons qui affluent de toutes parts. C'est ainsi que le roi d'Aragon, également vicomte de Millau par son mariage, et à ce titre propriétaire du Larzac, offre aux Templiers...
Et du Lévézou.
Et du Levézou. Et du Levézou, bien sûr, là, ce qui nous rapproche, là, ce qui nous donne un lien, évidemment, sur ce qu'on va dire tout à l'heure. Donc, par son mariage, il devient propriétaire du Larzac, qui l'offre aux Templiers, non seulement donc ce vaste plateau d'environ 1000 km², hein, c'est grand, le Larzac, mais également le village de Sainte-Eulalie-de-Cernon, qui sera le siège de la commanderie des Templiers.
Et le départ de la route du sel 2013.
Jean-Yves est éblouissant aujourd'hui, bon, comme toujours du reste. Alors, deux villages seront sous la dépendance de Sainte-Eulalie, Jean-Yves.
Bien sûr.
La cavalerie et...
Et la cavalerie, puisqu'on en a déjà parlé, puis la cavalerie, j'insiste.
Oui.
Ça, c'est Monsieur Ossiba qui est historien, qui écrivait dans Sauvegarde du Rouergue, qui m'a raconté ça. Et je pense que c'est vrai. La cavalerie, c'était l'entraînement, le terrain d'entraînement de toute la 5e région.
Et alors, donc, il y a la cavalerie et la couvertoirade.
Et la couvertoirade.
Alors, par contre, le Viala du Paggio, la fameuse grande tour que l'on peut voir carrée du Viala du Paggio, elle, en fait, elle est hospitalière. Et elle a été, en fait, bâtie un siècle après l'abolition de l'ordre des Templiers, puisque l'ordre a été aboli.
Qui est revenu aux hospitaliers après.
Non. Ça a été
la commanderie de Sainte-Eulalie est revenue propriété des Hospitaliers.
Oui, oui, non, je te parle du Viala du Paggio, donc qui a été, en fait, c'était un donjon qui était un grenier à céréales.
C'est
en
ça.
Fait, voilà. Et donc qui a été construit.
C'était pour le passage des troupeaux de moutons.
Voilà. Alors, on imagine parfois que la présence des chevaliers templiers était importante sur le Larzac. En fait, c'est tout le contraire. Jusqu'à la fin du XIIIe siècle, ils seront entre 2 et 7 selon les périodes. Donc, il n'y avait pas beaucoup de monde. Alors, peu nombreux, ils sont secondés par quelques dizaines de frères sergents, qui est, le frère sergent, c'est le grade le plus bas de l'ordre des templiers. Hein, c'est vraiment le bas.
Il y a le servant aussi, d'abord.
Voilà.
Et après, il y a le sergent.
Et le sergent. Alors, les frères sergents ont pour tâche de regrouper les paysans du Causse dans les villages qui sont désormais fortifiés. Et le rôle de ces paysans, bien sûr, consiste d'une part à cultiver des céréales sur les terres qui sont assez pauvres, évidemment. C'est un peu dans les dolines, hein, ces dépressions. Et d'autre part, à accroître autant que faire se peut le cheptel ovin. Je te le dis et je l'ai vérifié.
Oui, non, mais ça c'est vrai, il y avait beaucoup de moutons sur le Larzac. Si les Templiers étaient si forts, c'était un peu grâce au Roquefort. Hein. C'est vrai, hein. Parce qu'on a des témoignages comme quoi le sel qui remontait de la mer pour saler les fromages de Roquefort était beaucoup plus porteur et bien meilleur que le sel qu'on trouvait dans les carrières.
Voilà. Alors, avec donc ces grands troupeaux de vins, le problème, c'est qu'effectivement, les anciennes forêts de chênes ont quasiment disparu, évidemment, sous les dents des moutons. Et ce qui fait que quand on voit le Larzac, hein, c'est pas un paysage naturel. En fait, c'est l'activité humaine qui a façonné ce paysage. Ça n'a rien de naturel, c'est tout à fait l'activité humaine. Alors, au cours de leur histoire d'un peu moins de 2 siècles, l'ordre du Temple en France sera dirigé par 23 grands maîtres. Et le 18e d'entre eux nous tient évidemment à cœur, Jean-Yves, c'est Guillaume de Sognac.
Qui est né à Belcastel.
Qui est né à Belcastel et qui a été tué à la bataille de Mansoura en Égypte.
Et qui a perdu un œil à la bataille de Mansoura, mais 3 jours après, il était en combat à côté de Saint-Louis, très très proche de Saint-Louis.
Voilà, et alors Saint-Louis a été vainqueur de la bataille, mais de cette bataille, mais il a été fait prisonnier. Mmh. Alors, effectivement, parmi tous les fantasmes qui gravitent autour de l'histoire des Templiers, il y en a un, évidemment, qui a la peau dure, c'est l'or des Templiers. Ah, l'or des Templiers. Donc, avant d'être exterminé par le roi Philippe le Bel et le pape Clément V...
J'insiste, parce qu'il y a un trésor à payer en Bruno.
Ouais, les Templiers auraient réussi à planquer un immense maco. Question, alors, est-ce que l'ordre du Temple était si riche que cela? Bon, c'est vrai qu'il n'était pas pauvre, mais sa richesse était inférieure à celle, par exemple, des grands négociants de Montpellier, et surtout à celle des banquiers italiens, surtout ceux de Sienne et de Florence. En fait, les ressources de l'ordre venaient des dons, de l'exploitation de ses grands domaines agricoles, de la location de son patrimoine immobilier, qui était considérable, également des rançons exigées pour la libération des ennemis faits prisonniers, et bien sûr de ses activités bancaires, parce que c'était des banquiers.
Ils ont inventé la banque.
Non, ils l'ont pas inventé. Non, mais en fait, ils ont pris le chemin en route. Alors, les Templiers, en fait, ne thésaurisaient pas, c'est-à-dire qu'ils n'amassaient pas l'argent. L'argent qui rentrait était dépensé au fur et à mesure pour la formation des soldats, la location des navires pour les transporter, l'entretien des places fortes en Terre Sainte, l'aide et la protection apportée aux pèlerins, mais également pour essayer de conserver alors l'île de Chypre et de reprendre Jérusalem. Et c'est vrai que les charges financières de l'ordre du Temple que l'ordre du Temple devait assumer étaient considérables. Donc, inutile donc, Jean-Yves, de retourner les cailloux du Larzac ou d'explorer ses grottes et ses avennes. L'or des Templiers ressemble au paysage des grands causses, les jours de brouillard, de fantastiques mirages. Alors, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, donc, avec Fred et avec Marjolaine. Alors, je crois que le 24 mars, dimanche 24 mars, tout bientôt, quelque chose, un événement important va se dérouler. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu?
Ce dimanche 24 mars 2013 aura lieu sur la commune d'Alrens, sur le site de la Tour de Perbrie, nous avons abordé précédemment, la deuxième édition du printemps du Grand Tour des Monts et Lacs du Lévézou. Alors,
deuxième
édition. La première a eu lieu l'an dernier, en 2012, à Vezin, et a connu un succès assez retentissant. Le beau temps était de la partie, on espérait qu'il sera aussi au rendez-vous.
Mais oui.
Cette année, pour ce millésime 2013. Donc, le but du jeu de ce printemps du GTML du Lévézou, c'est tout simplement de promouvoir la multi-randonnée sur le territoire du Lévézou, qui comporte 22 communes. Mais Marjolaine, mon acolyte, vous fera un petit détail de ce qu'est le GTML vraiment. Moi, je vous dépeins rapidement la journée 24.
Le côté sportif, alors.
Le côté sportif, on va y venir, puisque c'est mon credo. Donc, ça sera sur le village d'Alrens, Les randonnées seront donc mises à l'honneur, la randonnée à pied, la randonnée à VTT, et bien entendu, comme elle s'y à l'animation, à l'émission d'aujourd'hui, la randonnée équestre.
La randonnée à cheval. Voilà.
Donc un parcours a été élaboré, il est calé et calqué sur un parcours existant attenant au GTML. C'est Yves Monteillet qui s'occupe un petit peu, je ne sais pas si vous connaissez Monsieur Bonnet.
Oui,
Yves
Monteillet
qui s'occupe un petit peu tout ce qui est course à pied et randonnée sur le secteur de Villefranche-à-Lorance, canton de Salcuran, qui a chapeauté la mise en place du
parcours. Qui a beaucoup de succès d'ailleurs, parce que c'est très très fréquenté, ça marche bien. Hein.
Ouais, et Calana, le semi-marathon, voilà, c'est des activités qui sont bien prises d'assaut par les trailleurs et les raiders.
Alors Marjolaine,
cette journée, elle est l'occasion de mettre à l'honneur ce grand tour des Monts et Lacs du Lévézou qui a été créé en 2011, donc l'été 2011. Donc c'est pour ça que chaque année maintenant, on a décidé de faire une journée un peu pour valoriser ce chemin de randonnée de pays. Alors ce grand tour, il est fait de deux boucles, une sur les monts et une sur les lacs, puisque c'est la particularité de Lévézou d'avoir cette complémentarité entre deux espaces un peu différents. Un tour qui fait à peu près une centaine de kilomètres autour des lacs Villefranche-de-Pana, Parloux, Pont-de-Salard, et puis un autre qui fait le tour des monts du côté de Vezin, Saint-Léon et d'autres villages à découvrir. Et voilà, en passant par le piège Montseny.
Alors je vais vous poser une colle. Est-ce que la randonnée passera, le tour passera par les Tremblayres du Lévézou?
Les Tremblayres.
Ah, les Tremblayres.
Ah, Jean-Yves, alors dis-nous tout.
Les Tremblayres, les chevaux n'aiment pas ça, les Tremblayres. Vous savez, c'est la tourbe, c'est les endroits tourbeux et le sol, quand on passe dessus, tremble comme ça. Et puis, d'un coup, il s'effondre. Et alors là, les chevaux connaissent bien ça et il ne faut pas les obliger quand ils sentent et ils se retiennent. Il ne faut pas les obliger à aller parce que finalement, hop, ils risquent de s'enfoncer.
Ils risquent de s'enfoncer.
C'est les marées.
Voilà, alors, on va s'accorder tourbières. Maintenant une petite pause musicale avec Zarga, 11 place des Marseillaises.
Dans ma mémoire, toutes ces années sont ancrées dans mon cœur pour toujours à jamais, bien que votre départ l'ait laissé. Un vide immense, un vide immense. Dans ma mémoire, on y a grandi, constamment inondé d'amour et de tendresse. C'était le refuge, même en cas d'ennui. C'était notre nid, notre paradis. Au 11 place des Marseillaises, c'était... Au 11 place des Marseillaises, ça la richesse. Au 11 place des Marseillaises, on y fait bien. Au 11 place des Marseillaises, au 11 place des Marseillaises. Je me souviens de toutes ces soirées, les fêtes en famille, la joie pour mamie dans sa cuisine, les cousins, cousines. Défile la taquine, la laissant pas tranquille. Elle était là à tout préparer. Toujours au petit soin pour que l'on manque de rien. C'était sa vie, ça lui faisait du bien. Donner de soi pour s'occuper des siens. Des Marseillaises, 11 places, c'était bien. 11 places des Marseillaises, ça la richesse. 11 places des Marseillaises. Mais il faut pas trop en demander. Enfin, vous êtes...
Alors donc le dimanche 24 mars, le tour. Alors voilà, je vais vous poser une question à Fred, à Marjolaine. Voilà, j'ai envie de participer le 24 mars, dimanche 24 mars, à ce tour, à cette randonnée. Qu'est-ce que je dois faire? D'abord, combien ça coûte? Où je peux me renseigner? Que dois-je faire?
Alors, cette journée, elle est faite pour effectivement essayer de satisfaire tout le monde, oui. Et donc déjà, la journée est totalement gratuite. Le site sera ouvert à tout le monde. Et donc, il suffit de venir à la tour de Pérebrune, soit pour la randonnée dès 9h du matin, on va pouvoir vous dire un petit peu plus sur les différentes randonnées proposées, soit venir à partir de 12h30, profiter des différentes animations que Fred détaillera tout à l'heure. Si jamais on veut des informations un peu plus précises sur cette journée, eh bien, on peut appeler l'office de tourisme de Parloux-Lévézou au 05 65 46 89 90. 05 65 46 89 90.
Ok.
Pour ma part, j'ai à la charge l'organisation du champ purement sportif, puisque cette journée est axée sur la randonnée, mais je vais proposer des ateliers spécifiques sur le domaine de la tour de Peyrebrune. Alors, la première activité dite à sensation, ce sera une tyrolienne qui traversera toute la butte de Peyrebrune, qui partira d'un gros rocher pour aller sur le manège à cheval. La deuxième activité, ce sera une course d'orientation. On se repose sur le parcours permanent qui a été établi par le Conseil général des services des sports il y a quelques années, qui est très opérationnel, avec trois niveaux différents. La troisième activité, ce sera du tir à l'arc, en espérant coller au côté un petit peu chevaleresque de la journée. Donc tout ça dans le cadre d'initiatique, bien sûr. Et le quatrième et dernier atelier sportif sera une initiation à la maniabilité VTT, pareil, qui un parcours qui sera établi et qui déambulera sur les différents reliefs de la butte de Peyrebrune.
Alors justement, est-ce que les participants, par exemple, en raison de leur âge ou de telle ou telle raison particulière, peuvent faire simplement une portion de ce tour, ou est-ce qu'ils sont obligés de faire tout le tour, hein?
Alors, concernant la randonnée, effectivement, il y a plusieurs départs. Un départ pour une randonnée à la journée de 23 kilomètres. Donc ça, c'est pour les gens qui aiment, qui aiment vraiment randonner, qui ont une certaine habitude. Départ, rendez-vous à 9h du matin, plutôt 8h30 pour s'inscrire, et ensuite la randonnée partira à 9h du matin.
8h30, alors dit carrément 8h, pour être sûr de les avoir à 9h moins le quart.
Bon, peut-être pour le quart d'heure avéronné.
Oui, je voudrais poser une autre question, moi aussi. Est-ce que les cavaliers auront un terrain pour amener leurs chevaux? Parce qu'il y a des cavaliers individuels qui risquent de venir d'un peu partout du Vaisseau, de Saint-Brosély, par exemple.
Alors, tout à fait.
Monsieur Bastide, je pense, sera là.
L'idée, c'est de monter jusqu'au site de la tour où il y a un parking. Et en face du parking, un champ aura été aménagé dans lequel il y aura une corde installée, de l'eau pour les cavaliers. Donc, tout sera prévu pour un espace protégé où on pourra installer les chevaux. Le départ est prévu à 9h, donc dernière limite. L'idée, c'est de faire partir les piétons dans un sens et les cavaliers et les VTT dans l'autre sens pour qu'ils ne se croisent qu'à un moment et se voient arriver l'un l'autre et qu'il n'y ait pas de problème d'accident ou en tout cas de surprise. Voilà. Les cavaliers, bien sûr, mettant moins de temps, ils peuvent aussi partir plus tard dans la matinée. Nous, on sera là, effectivement, pour les accueillir. D'accord. Ensuite, il y a deux autres randonnées. Une de l'après-midi qui partira à 14h précise aussi. Donc, voilà, rendez-vous 13h et faire un petit tour de tyrolienne, par exemple, avant de partir. Une randonnée juste de 7-8 km qui dure à peu près 2h. Et puis, il y a la possibilité aussi d'une balade comptée. Donc, une balade sur le site de la tour de Peyrebrune, qui est un endroit vraiment enchanteur, avec des pauses.
Très magique. Hein,
ouais. Complètement magique, tout à fait, oui.
François Fabier n'était pas très loin. Il venait chercher l'inspiration souvent à Peyrebrune.
Un autre artiste très connu, Viala, a fait une très belle eau-forte de la tour de Peyrebrune. Donc cette balade-là sera ponctuée de pauses comptées, donc par une conteuse qui accompagnera, et puis aussi de pauses plus sur le côté nature, avec des quelques explications portées par le CPIE du Rouergue, quelques explications sur ce que l'on peut voir autour de soi.
Une belle journée en perspective.
Hein. Voilà pour les marcheurs.
Historique et tout complète, je crois. Hein.
Voilà, et Fred va peut-être terminer sur les animations, puisqu'il y en a d'autres moins sportives.
Oui, se greffe aussi au côté sportif, quelques ateliers plus peut-être manuels, culturels. Alors, il y aura un atelier tout simple de vannerie, de dessin. On aura un atelier de jeux en bois, des jeux traditionnels, avec un animateur. Ça peut être très sympathique pour des parents qui veulent partir sur une micro-randonnée ou autre, de laisser leur gamin.
Donc, de laisser pas trop longtemps.
Non, mais voilà. Le site a l'avantage d'être entre guillemets clos et isolé, donc on peut avoir un œil averti sur les enfants qui seraient laissés là, avec accord des parents.
Donc bien sûr. À partir de quel âge les enfants?
Alors il n'y a pas d'âge.
Ça peut être des tout petits.
Ouais, si on s'en réfère à l'expérience de 2012 à Vezin, on a eu un public qui allait, comme on dit, de 7 à 77 ans, en quête de sensations ou de nouveautés via les activités proposées ce jour-là.
D'accord. Voilà.
Chose importante aussi, il faut pas négliger la visite de la tour de Peyrebrune, qui est le point central de la journée. Et en fin d'après-midi, suite à cela, nous aurons l'inauguration de la maison de Peyrebrune.
La maison du chevalier.
Non, elle a annoncé, elle sera juste la maison du patrimoine.
La maison du patrimoine, oui, d'accord.
Voilà. Donc il y aura une inauguration et nous aurons droit à la visite et la présence d'élus du Lévézou pour inaugurer le bâtiment en question. Il s'en suivra après un petit goûter champêtre et qui devancera bien sûr le spectacle proposé par notre cher ami.
Goûter champêtre, donc que vous fournissez,
que l'organisation fournit, voilà. Le Sivom de Mozellac fournit.
Voilà, avec des produits locaux. locaux.
Tout à fait.
Ah bah oui, tant
qu'à faire.
On espère tous.
Ah oui,
non.
Maintenant, je recommande à tous d'aller porter des œufs au Clarisse pour que le soleil soit dans la partie. Parce que...
Ah ben ça, Jean-Yves, écoute, on va te donner un grand panier, quelques poules pondeuses et tu feras ce qu'il
faudra. C'était ce qu'on faisait autrefois.
Voilà.
Chose importante, oui, qu'il ne faut pas négliger, c'est vrai que le CIVOM des Moins-Élac, donc le syndicat du Lévézou et le porteur de la manifestation avec l'office de tourisme de Parole-Lévézou, mais il ne faut pas négliger aussi l'apport des bénévoles des amis de la Tour de Pérebrune.
Ah, ils font un travail remarquable.
Ouais, remarquable.
Ils sont troisième âge et se font un travail remarquable.
Pour preuve, la dernière réunion d'organisation, on était plus de presque une trentaine. Ils sont tous là, fervents, à proposer des infos, du soutien.
C'est eux qui avaient refait l'arène de Pérebrune, en gros.
Oui,
c'est
oui,
cela, qui est très, très bien fait.
Alors, c'est eux qui, en ce moment, effectivement, remontent certains murs, remontent quelques points en faisant des fouilles, effectivement, autour de la tour. Et nous sommes passés encore hier pour voir... Pour prendre des mesures, et ils étaient en train de travailler de façon acharnée sur le site. Oui. C'est vraiment des gens avec qui est très agréable de travailler.
Voilà, que la tour, finalement, c'est que 0,5% de ce qui était un énorme château, c'est-à-dire un des verrous.
Il y avait quatre tours. Voilà. C'était une place forte, il y avait 35 cordonniers et 15 maréchaux ferrants à l'époque. Donc c'est quelque chose d'important.
N'oublions pas de dire que la journée se clôt par un spectacle de Jean-Yves Bonnet, qui vient par amitié sur le site pour proposer un spectacle.
On est chevalier ou on n'allait pas. Donc, on va essayer de faire souffler un peu de l'air de chevalerie. Mais je ne suis pas le seul concerné parce qu'on
Alors, Jean-Yves, on arrive à la fin de l'émission, donc on va être obligé de conclure. C'est avec plaisir que le messager du cheval vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour vagabonder en votre compagnie sur les chemins d'une histoire fabuleuse. L'histoire de cette incroyable alliance nouée au cours des siècles entre un animal peureux et celles et ceux qui s'y sont passionnés, qui continuent à s'y passionner encore aujourd'hui, Jean-Yves.
Non pour s'en servir, mais pour le servir, c'est important.
C'est important. Alors n'oubliez pas, tous les mercredis et les samedis à 12h35, il y a un cheval dans les studios de CFM Rodez 107.9 et de CFM Villefranche-de-Rouergue 90.2. Vous pouvez également retrouver l'ensemble de ces émissions sur le site cfmradio.fr à la rubrique Le Messager du Cheval. Alors Jean-Yves, évidemment, un immense merci à Marjolaine et à Fred.
Absolument.
Merci à vous. Et revenez nous raconter après le 24, comment ça s'est passé. Mais j'y serai le 24. J'y serai.
Très bien.
Voilà. Merci à toutes et à tous de nous rester fidèles. À la semaine prochaine et
à bientôt.
Et un grand bravo à nos
chevaux.
Ah, ça y est, on va t'avoir un peu perdu l'habitude. Ciao, ciao.
Chevaliers, alliés et fiers sur leurs coursiers, un grand voyage vers le lointain pèlerinage. Hey, hey. La vie est un combat, ami, tu peux me croire, la plus belle des victoires est la victoire sur soi. Hey, hey. Ton cheval est ton ami pour t'aider à trouver le vrai sens de la vie. Hey, hey, confiance que tu as perdue, ce en quoi tu ne croyais plus, suis-nous sur les sentiers pour la retrouver. Hey, en passant par Salmières, tu langues d'Ocorouègue. Après la mer, les salins, les marais, les garrigues, le plateau du Larzac, la couvertura de Millau, le Lévézou, Salmières, milieu du Seine.